Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un prêtre argentin des bidonvilles reçu par le pape François au Vatican. Il a apporté une valise pleine de cadeaux et de messages pour l'ancien archevêque de Buenos Aires qui, nous le verrons, n'a jamais eu peur d'aller dans les périphéries du monde. Dans ce magazine également, des appels à la prière pour les chrétiens du monde arabe. En Syrie, au Liban, en Égypte, en Irak, ils payent le prix fort du chaos et des troubles actuels dans la région. C'est le roi Saint-Louis qui a instauré les premiers liens entre la France et la Mongolie. Une page d'histoire très peu connue qui sera remise à l'honneur ce dimanche. Et en fin d'émission, ne manquez pas le commentaire de l'Évangile. Le pape François a donc reçu ce samedi matin au Vatican le père José Maria Di Paola, un de ses prêtres Villeros, les curés des bidonvilles, qui en Argentine consacrent leur ministère pastoral aux environnements urbains les plus pauvres, où la violence et les meurtres sont monnaie courante. Ces périphéries bien connues du pontife argentin sont peuplées en majorité d'immigrés venus du Paraguay ou de Bolivie. José Maria Di Paola, plus connu sous le nom de Padre Pepe, était venu en Italie pour participer au meeting pour l'amitié entre les peuples à Rimini. Et il est bien sûr passé par Rome voir son ancien archevêque Thomas Chabol.
Padre Pepe vit depuis 6 mois dans la banlieue miséreuse de la Carcova à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires. En Argentine, cela fait des années qu'il a défié les narcos, allant là où la police et les ambulances n'osent plus entrer. Il a reçu des menaces mais il ne se laisse pas intimider, déterminé à lutter contre la drogue qui dévaste tout sur son passage et transforme les enfants en morts-vivants. Avec d'autres prêtres, il s'efforce de sortir les habitants de la spirale chômage, pauvreté, violence. À son arrivée au Vatican, il traînait derrière lui une grosse valise pleine de lettres et d'objets en tout genre pour le Saint-Père de la part des habitants des bidonvilles, des intentions de prière, des chapelets et des anneaux de mariage à bénir, des livres. Certains habitants des bidonvilles ont connu personnellement le cardinal Bergoglio. Padre Pepe a raconté que le pape François avait été un évêque Villero qui marchait avec ses prêtres dans les favelas de Buenos Aires au milieu des plus pauvres pour baptiser, confirmer, parler avec les gens, les encourager. Quand il était archevêque de Buenos Aires, il a multiplié par 2 le nombre des prêtres engagés dans les bidonvilles, prenant personnellement leur défense dans les moments difficiles. Devenu pape, il ne peut plus suivre leur travail pastoral au jour le jour, mais il ne les oublie pas et ne perd pas une occasion pour les recevoir à Rome.
Et le 10 septembre, le Saint-Père visitera le Centre Astalli à Rome. Dirigé par les jésuites italiens, ce centre se consacre à l'accueil des réfugiés. Les détails de la visite restent encore à préciser, mais le pape François répondu favorablement à l'invitation de ses confrères jésuites. Le pape François qui a nommé un secrétaire adjoint du tribunal de la signature apostolique. Il s'agit de Mgr Giuseppe Sciacca, italien, âgé de 58 ans, qui occupait depuis 2 ans la charge de secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Il avait succédé à ce poste à Mgr Carlo Maria Vigano, lui-même nommé nonce apostolique aux États-Unis, au milieu de vives polémiques, souvenez-vous. Mgr Sciacca avait été chargé de mener une œuvre d'assainissement, de transparence et de pacification suite aux accusations de corruption et de malversation lancées par Mgr Vigano à propos de la gestion du gouvernorat. Juriste éminent, ancien auditeur de la Rote romaine, connu pour son intégrité, Mgr Sciacca va donc renouer avec le domaine juridique qui est le sien. Actuellement dirigé par le cardinal américain Raymond Leo Burke, la signature apostolique est le tribunal suprême du Saint-Siège, la juridiction supérieure qui veille à la bonne administration de la justice dans l'Église. Les catholiques de Tunisie sont invités à prier et à jeûner ce dimanche 25 août pour la paix, en signe de solidarité avec les populations des pays arabes touchées par les violences et l'instabilité. Cette initiative, lancée par Mgr Ilario Antoniazzi, archevêque de Tunis, a pour objectif de montrer la solidarité des chrétiens de Tunisie avec leurs frères des autres pays arabes, mais aussi avec les musulmans, et de demander au Seigneur qu'il accorde la paix à ses peuples. Mgr Antoniazzi est interrogé par Xavier Sartre.
Nous, ici en Tunisie, nous sommes un petit diocèse. Mais les Tunisiens sont connus pour avoir un cœur grand et être sensibles aux souffrances des autres, étant donné qu'ils sont passés eux-mêmes par des souffrances. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas rester indifférent devant tout ce qui arrive dans les pays arabes, Égypte, Syrie, Liban, et Irak, étant donné que le peuple tunisien fait partie de ce peuple arabe. C'est une partie inséparable. Qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, ils sont tous nos frères. Notre religion ne permet pas de distinguer quand quelqu'un est malade et s'il est chrétien ou pas. On ne demande pas quelle est ta religion, mais quelle est ta souffrance. Et sa souffrance, c'est la souffrance de tous les Tunisiens ici. Nous l'avons senti bien en parlant avec notre peuple ici.
Pourquoi ne pas vous concentrer d'abord et avant tout sur ce qui se passe en Tunisie alors que, au point de vue politique, la situation est bloquée ?
C'est vrai ça, mais il ne faut pas être des égoïstes. C'est comme je l'ai dit, les pays arabes, c'est le monde arabe, c'est un monde arabe. Je ne nie pas qu'en Tunisie, la Tunisie a ses problèmes qui ne sont pas résolus. Mais quand quelqu'un souffre plus que nous, nous devons nous oublier et penser à lui.
Selon vous, est-ce qu'il est important que les religions, quelles qu'elles soient, en particulier donc l'islam et le christianisme, quelle que soit après l'Église, réaffirment que tous les conflits qui sont en cours, que toutes les tensions qui sont en cours ne sont pas liées à la religion, mais ont bien des motifs politiques?
En tant que chrétien, nous le faisons tous les temps. Naturellement, il y a toujours un courant qui n'est pas extrémiste chez les musulmans, n'est-ce pas ? Et qui le dit clairement ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'en voyant même par la télévision que les extrémistes font beaucoup plus de bruit que les gens qui aiment la paix. En tant qu'Église, nous n'y sommes pas ça. Même si on constate que parfois la religion est tirée en jeu pour des motifs politiques qui n'ont rien à voir avec la religion.
Est-ce que vous attendez de la part du pape François une parole forte ? Une intervention peut-être un petit peu plus spécifique sur ce qui se passe actuellement, principalement au Proche-Orient.
Même la semaine dernière, il a parlé de l'Égypte. Et je pense que le pape ne nous oublie pas et qu'on est sur la liste de ses préoccupations. S'il nous donne un mot encore plus fort, on serait bien content. Mais on le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait, pour la lettre qu'il a envoyée au monde musulman à l'occasion de la fête du Ramadan, qu'il a eu une résonance très très belle et très très forte chez les musulmans. S'il nous aide encore avec un mot en plus, nous lui serons encore plus reconnaissants. Mais on lui dit merci, quand même.
C'était l'archevêque de Tunis. Et en Suisse, à l'initiative de la conférence épiscopale, une veillée de prière a été organisée pour les chrétiens d'Égypte et du Moyen-Orient. En Malaisie, l'Église catholique a perdu une manche dans la bataille judiciaire sur l'utilisation du mot Allah. Jeudi, la Cour d'appel a validé le recours du gouvernement malaisien contre un jugement de 2009 autorisant les non-musulmans à utiliser dans leurs écrits le terme Allah pour désigner Dieu. Plusieurs dizaines de musulmans manifestaient près de la Cour d'appel pendant que les juges prenaient leur décision. La veille de la décision de justice, l'archevêché de Kuala Lumpur avait exprimé sa crainte de nouvelles violences alimentées par les déclarations au vitriol de mouvements islamistes et appelé les autorités à prendre les mesures nécessaires pour prévenir des débordements. Le procès en appel devrait se tenir à partir du 10 septembre. La petite communauté catholique de Mongolie célèbre ce dimanche les premiers liens entre la France et la Mongolie, initiés par le roi Saint-Louis. Une messe en français sera célébrée à la cathédrale d'Oulan-Bator. C'est un fait peu connu, mais les liens entre la Mongolie et la France remontent au XIIIe siècle. Dans le contexte géopolitique de l'époque, la puissance militaire des Mongols semblait seule capable de faire vaciller le monde islamique. Le califat de Bagdad était tombé entre leurs mains. Olivier Tosserie.
La première ambassade de Louis IX partit en 1249, menée par un dominicain. Aucun ambassadeur de l'Occident chrétien n'avait auparavant pénétré dans les steppes tartares où Marco Polo ne s'aventurera que quelques dizaines d'années plus tard. Le roi de France était alors à Chypre, d'où il dirigeait la 7e croisade. Il recherchait une aide militaire pour délivrer Jérusalem des Sarrasins, mais espérait également pouvoir reprendre le projet avorté du pape Innocent IV de convertir le Grand Khan. À l'époque, des chrétiens nestoriens occupaient de hautes fonctions à la cour de l'empereur mongol, lequel jouissait d'une réputation de tolérance religieuse. À Karakorum, la capitale, se trouvaient à l'époque deux mosquées musulmanes, une église nestorienne et 12 temples bouddhiques. La première mission ne donna rien. Louis IX envoya alors un de ses amis proches, le franciscain Guillaume de Rubruck. Cette deuxième délégation franque eut pour résultat d'établir de véritables liens avec le peuple mongol qui se poursuivront jusqu'au règne de Philippe le Bel. Mais aucune conversion ne suivra. L'empereur dira même aux émissaires du roi de France « Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, il a donné aux hommes plusieurs voix. Dieu vous a fait connaître les Écritures saintes et vous autres chrétiens, vous ne les observez pas. » À nous, il a donné des devins guérisseurs, nous faisons ce qu'ils disent et nous vivons en paix.
Depuis la révolution démocratique de 1990, les relations franco-mongoles se sont nettement développées, d'autant que ce pays, grand comme trois fois la France, est assis sur un énorme trésor, les mines du désert de Gobi, et que son taux de croissance, selon la Banque mondiale, a dépassé les 17% en 2011. L'Église catholique qui fut balayée par l'avènement du communisme renaît également depuis l'arrivée en 1992 des premiers missionnaires philippins de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Le pape François a nommé un envoyé spécial aux célébrations officielles du premier centenaire de l'archidiocèse de Lille. Il s'agit du cardinal français Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Lancé en 2010, les commémorations s'achèveront solennellement les 26 et 27 octobre, en présence donc du délégué pontifical. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose à présent de réécouter un entretien avec François Huguenin, historien des idées et essayiste. Catherine Aubin l'avait interrogé en décembre dernier pour notre rubrique hebdomadaire « Livre pour Dieu ». Dans « Les voies de la foi » paru aux éditions Perrin, François Huguenin parcourt les plus grands textes du catholicisme depuis sa naissance jusqu'à nos jours autour de trois thèmes « L'intelligence de la foi, le rapport au monde et la mystique ». Un patrimoine à découvrir pour nourrir notre foi.
Le projet de ce livre, il est double en fait. Il s'agit de faire un parcours dans toute l'histoire du catholicisme en présentant les textes majeurs avec cette double idée. L'idée de présenter un corpus de la foi catholique, en l'occurrence moi je suis croyant, je suis catholique, donc évidemment il y a une perspective de foi, mais comme je suis également historien des idées, il y a une perspective historique, parce qu'il me semble important de repositionner cette histoire du catholicisme dans l'histoire culturelle du monde dans lequel il s'inscrit. Et cela peut donc à la fois, me semble-t-il, toucher des catholiques qui sont un petit peu parfois dans la méconnaissance d'un héritage de texte qui est un héritage extraordinaire, et puis ceux qui sont en dehors ou un peu sur le seuil de l'Église, la perspective historique peut être une perspective d'accès intéressante pour eux. Comprendre que cette sphère qui les intimide peut-être, sur laquelle ils ont peut-être quelques idées reçues du catholicisme, ils peuvent l'approcher dans le courant d'une histoire qui est aussi la leur.
Comment avez-vous fait pour sélectionner ces 200 textes parmi des dizaines de milliers ?
D'abord, je crois que j'ai eu une bonne dose d'inconscience. C'est vrai que c'était un projet un peu dingue de sélectionner 200 textes. Je me suis tout de suite d'abord dit, il ne faut pas que ce livre soit l'histoire de la foi catholique vue par François Huguenin. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus universelle possible, la plus objective possible, même si évidemment il y a des choix et il y a des choix qui correspondent à ce que je suis, c'est certain. Mais j'ai voulu quand même essayer d'atteindre une certaine objectivité, une certaine universalité dans ces choix. Et pour cela, je me suis entouré de conseils, d'amis, prêtres, religieux ou laïcs, d'horizons divers, dont je connaissais la grande érudition, mais aussi la sagesse, et qui avaient compris ce que je voulais faire. Et donc, c'est vrai que j'ai eu recours à un certain nombre de conseils, d'abord pour parfois dénicher certains textes, pour parfois affiner un choix dans des auteurs majeurs. Ça a été pour moi aussi une manière de travailler de manière plus paisible parce que je me sentais sur une voie qui n'était pas ma petite voie singulière, qui pouvait intégrer une certaine pluralité, une certaine polyphonie.
Vous avez parlé d'axes, François Huguenin. Autour de quel axe avez-vous articulé vos choix de textes ?
J'ai tout de suite, ça pour le coup, j'ai eu l'intuition qu'il y avait trois grands axes. Il y avait d'abord l'axe de l'intelligence de la foi, parce qu'il est évident que dans ces textes, il y a tout un corpus qui met en lueur l'intelligence de la parole de Dieu, du message de l'Évangile, de cet extraordinaire événement qui est l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus et la fondation de cette Église qu'il a donc fondée et qui, à partir de la Pentecôte, est là pour porter sa parole. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence de la foi. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, ça a été la manière dont le catholicisme s'est inscrit dans le monde, son rapport avec le monde. Et évidemment, là, on touche à un certain nombre de questions, comme les questions politiques, les questions sociales, les questions de pouvoir aussi, parce que cette histoire, elle s'inscrit dans une histoire qui est celui du monde chrétien et spécifiquement ensuite du monde occidental. Et puis, le troisième axe, c'est l'axe de la mystique. C'est au fond l'axe de la relation personnelle que chacun a avec le Seigneur. Au fond, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence de la foi, il n'y a pas de juste rapport au monde sans une véritable relation intérieure avec le Seigneur. Et au fond, cette mystique qui va des pères de l'Église jusqu'à l'époque contemporaine, elle est au fond le cœur qui bat de tout catholique.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 25 août, le 21e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. C'est le passage de la porte étroite. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers.
L'évangile de ce jour nous parle du salut que Jésus est venu apporter aux hommes. Si la volonté du Seigneur est que tous les hommes soient sauvés, le texte d'aujourd'hui nous montre cependant que certains resteront à la porte sans pouvoir entrer. Ce discours de Jésus est difficile à entendre et mérite toute notre attention. Essayons de mieux comprendre ce qu'il nous dit. Jésus parcourt les villages en enseignant. Le contenu de cet enseignement n'est pas précisé, mais il doit certainement être exigeant puisque quelqu'un s'avance et demande « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus parle alors de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Certains frapperont à cette porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et Jésus répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Cet échange fait penser à un autre dialogue que l'on retrouve dans la parabole des 10 vierges. Les vierges folles frappent à la porte et l'époux leur répond. « Je ne vous connais pas ». L'évangile de ce jour peut donc être éclairé par la parabole des 10 vierges. Les vierges folles, c'est-à-dire celles qui n'entrent pas par la porte étroite, sont celles qui ont oublié de prendre de l'huile en réserve. Elles reconnaissent que Jésus est le Messie, puisqu'elles l'appellent « Seigneur », mais elles sont insouciantes. Elles ne mesurent pas la grandeur de la responsabilité qui leur est confiée, c'est-à-dire illuminer le chemin de l'époux lorsqu'il viendra. Elles ont donc une mission qui rappelle celle de Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers. Mais au lieu de cela, elles commettent le mal et Jésus leur demande de s'éloigner. Par cette parabole, Jésus nous dit qu'il ne suffit pas de le reconnaître pour avoir part à son royaume. Il ne suffit pas de l'appeler Seigneur et d'avoir mangé et bu en sa présence. Faut-il encore porter la lumière qu'il nous a confiée ? Ensuite, Jésus apporte une clé de lecture supplémentaire. Il dit « Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. » Jésus fait donc allusion à l'ouverture du salut aux païens. En d'autres termes, l'élection des Juifs ne leur donne pas de garantie de salut. Dieu a appelé Abraham pour être le père du peuple choisi. Il a continué au cours des siècles à le guider en envoyant des prophètes et des rois. Toutefois, cette élection doit être bien comprise. Elle n'est pas un privilège qui exclut les nations et garantit le salut, mais une charge de témoignage. Par cet évangile, Jésus enseigne aux Juifs d'une part que leur élection n'aboutit au salut que s'ils reconnaissent comme Messie Jésus, et d'autre part, que le salut est désormais ouvert à tous. Ce passage ne manque pas de nous interroger nous-mêmes. Les chrétiens se considèrent maintenant comme les élus, ceux que le Seigneur a choisis pour révéler ses mystères. Mais la mise en garde que Jésus a faite aux Juifs il y a 2000 ans est aussi valable pour nous aujourd'hui. Reconnaître en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, ne suffit pas pour entrer par la porte étroite, faut-il encore être porteur de lumière.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.